Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Puissance au niveau de l'indépendance, au niveau de mon potentiel. Ouais. Dans la forme qu'elle existe aujourd'hui, c'était... Tu sais, moi, j'ai toujours été plus intrapreneur dans mes emplois, donc j'aimais beaucoup les emplois où on me met dans une situation et on me dit « go », voici ce qu'on essaye de créer.
Démerde-toi et...
Je sais pas comment on va faire ça. Je te donne les ressources. Tu me demandes ce que tu as besoin. Bricole de ton côté, puis on s'en reparle. Okay. T'sais, genre, puis je sais que c'est le cauchemar de beaucoup de gens qui sont qui sont onboardés dans des dans des entreprises.
J'ai une petite histoire sur ça.
Mais pour moi, ça c'était comme ok, cool, genre, tu sais, comme on me laisse l'autonomie, on me laisse justement de l'indépendance puis de l'espace, puis là je peux expérimenter, je peux aller faire mes recherches. Tu sais, c'est vraiment l'idée genre de chercher par soi-même. Fait que tu sais, ça c'était d'un point de vue professionnel, mais sinon, moi dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui tu sais, avant, je trouvais des apparts, puis je les sous-louais. Ben, pas les sous-louais, mais tu sais, comme, je faisais comme des apparts de chambreur. Okay. Tu sais, pour comme, genre, en tout cas, j'ai fait du marketing avant de faire du marketing, disons-le. Tu sais, comme que ce soit à travers Kijiji, quand je vendais des trucs sur Marketplace, ça n'existait pas à ce moment-là, mais tu sais, on utilise le terme « hustle ». Tu sais, j'ai toujours été comme un « hustler », genre, de des petites genres d'affaires un peu « random ». Puis, puis c'est là que j'ai trouvé aussi du plaisir à faire des choses que les gens, ils n'auraient pas pensé nécessairement faire pour avoir ce petit argent extra que tu veux pour aller prendre des vacances, partir à New York, t'acheter un manteau genre que tu voulais ou des choses comme ça. Fait.
Première forme de liberté financière dans « pocket money », on dirait.
Voilà, tu sais, puis c'est ça qui m'a permis comme éventuellement après ça, tu sais, à 27 ans, je pense que j'avais 25 ou 27, je sais pas, j'ai acheté mon premier condo. Mon condo, c'est un condominium, c'est un appartement. Je sais que c'est un terme que vous n'utilisez pas en France. Mais après ça, tu sais, m'intéresser à mes finances, bâtir un capital financier. Puis c'est intéressant parce que moi, dans mon approche, je vois le capital financier et les capitaux de notoriété comme fonctionnant sur les mêmes bases. Mmh. Puis ce que j'ai décliné en termes de business, ça a été vraiment autour de du capital de notoriété qui vient supporter ton capital financier.
C'est cool, je vais lâcher toutes les autres idées que j'avais pour attraper ce terme de capitaux de notoriété.
Ouais.
Parce que je comprends exactement ce que tu veux dire, mais j'avais jamais entendu le terme de dire c'est un capital, tu vois.
Non.
Parce que ça l'est vraiment, en fait, t'as raison, mais j'avais jamais entendu ce terme.
Ouais, puis j'ai eu ce déclic-là, j'ai eu ce déclic-là, en fait, cet été, parce que quand j'ai commencé à en parler comme ça, ça a été comme une révolution dans la façon que je présentais mes propres services, parce que ça faisait tellement de sens soudainement pourquoi travailler sa notoriété, puis pourquoi travailler sa marque, puis pourquoi ouais. travailler son positionnement, puis comment ça, moi, ça avait contribué à accélérer mon succès quand j'étais prête à me lancer en freelance, parce que j'avais bâti ce capital-là déjà à travers différents projets que j'avais entamés ou des choses comme ça. Fait que, non, c'est vraiment mon approche que j'ai commencé à décrire comme ça.
Ouais.
Puis, tu sais, même après ça, on peut faire plein de déclinaisons par rapport à tes types d'actifs, tu sais, ouais. que tu peux mettre. Puis, tu sais, tu as des actifs qui sont plus antifragile, justement, plus, tu sais, comme si on pense à l'immobilier, ben, tu sais, ton site web, ton SEO, alors, tu sais, tes contenus qui restent là puis qui vivent plus longtemps, mais qui prennent plus de temps à générer des revenus.
Ouais.
Tandis que tu as d'autres actifs qui sont plus liquides, comme par exemple, bon, genre.
Réseaux sociaux, tes réseaux sociaux,
les likes sur Insta, les publications virales ou des choses comme ça qui pourraient, genre, soudainement générer des choses, mais que tu peux perdre
c'est pas
rapidement.
Durable. Ouais.
Que tu perds rapidement.
Ouais, super intéressant. Je pense, moi, je fais le lien avec une autre manière d'en parler qui est la même, c'est de parler de marqueurs de crédibilité aussi.
Mm-hmm.
Et d'aller les chercher, les générer, parce qu'une fois que tu les as, ça reste longtemps.
Exactement.
Tu vois, par exemple, avec ce podcast-là qu'on est en train de faire, souvent, un chiffre qui peut être intéressant que je sors, c'est de dire qu'il y a plus de 80 heures de contenu sur le freelancing. C'est un marqueur de crédibilité qui est aussi, du coup, un capital de notoriété.
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, le fait que ton podcast soit associé à ton nom, puis c'est ça qui est intéressant aussi pour les entrepreneurs, c'est que tu ne restes pas non plus associé simplement à une entreprise. Si dans 2 ans, tu sais, on part un autre projet ou tu pars un autre projet, tout s'accumule dans ton capital de notoriété parce qu'éventuellement... Puis même si tu décides un jour de retourner en emploi, ben après ça, les gens, ils regardent ce que tu as fait au niveau business, ils regardent avec Exactement. Qui tu as travaillé, ce que tu as développé. Puis ça compte dans la balance, puis ça fait que tu es quelqu'un de plus... valoriser sur le marché du travail aussi après.
Ouais, et ça, c'est un truc que j'adore dans ton travail, justement, sur ces sujets personal branding et tout ce que tu peux faire pour valoriser ton expertise en tant que personne. C'est que t'es pas en mode « c'est un truc pour les entrepreneurs ». En fait, c'est un truc pour tout le monde.
Et, exact.
Et d'autant plus en tant que femme, et on viendra sûrement sur ce petit axe de tes engagements et de tes valeurs là-dessus. Mais j'adore déjà ce postulat de se dire, en fait... bosser sur ta notoriété en tant que personne, c'est un truc que tout le monde devrait faire, que tu sois étudiant, salarié ou entrepreneur, quoi.
Vraiment, puis moi, j'ai travaillé avec pas mal toutes les situations. Tu sais, je travaillais dans une université et puis j'ai développé des programmes pour des chercheurs, pour des étudiants, pour des PhD. Surtout, je trouve qu'on a tellement de difficultés des fois quand on sort de l'école ou quand on a été dans un milieu professionnel plus hiérarchique, à parler de soi à l'extérieur d'un système qui existe déjà, tu sais. À parler de soi comme ayant une valeur comme intrinsèque, puis ce potentiel-là dont on parlait au début, qui fait que c'est là-dessus qu'on bâtit, c'est sur notre vision qu'on bâtit aussi pour notre futur. Puis je sais pas en tout cas si tu as commencé à regarder ça, mais tu sais, tout ce qui se passe au niveau de la tokenisation sociale.
Avec les NFT et tout. C'est...
Avec les NFT, puis avec genre le fait qu'on peut avoir un token pour une crypto-monnaie à notre nom, pour que les gens puissent investir dans notre potentiel. Tu sais, toute cette conversation-là qui commence à avoir sur l'individu comme potentiel valorisé, je trouve ça vraiment fascinant. Puis... ce marché de l'échange de valeur dont on est des acteurs principaux.
Ouais, c'est clair. Et Il y a un autre truc que j'adore là-dedans, c'est que ça valorise aussi toutes nos expériences en tant qu'être humain, qui ont toutes de la valeur, en fait. Moi, c'est un truc que je partage souvent aux gens qui me suivent, c'est de dire que quand tu te lances dans une carrière entrepreneuriale ou que tu crées un projet, c'est pas un redémarrage à zéro, c'est en fait, tu fais levier sur tout ce que tu as déjà fait. Et j'ai souvent ce truc avec des personnes qui sont plus âgées, qui se lancent à 40, peut-être 50 ans même, qui sont en mode « Oh là là, je suis perdu avec tous ces jeunes qui savent quoi faire. » Mais putain, t'as une situation incroyable. 50 ans de sagesse, de projets accumulés, d'expérience, de crédibilité sur ton sujet. Même si tu changes de sujet, t'as plein de trucs à en tirer. Et je pense que ça serait hyper intéressant que dès le début, un de ces apprentissages qu'on a en début de vie, c'est tout ce que tu vas vivre, ça a de la valeur. Documente-le, montre-le, conserve-le. Et exploite-le quelque part, quoi.
Ouais, puis apprends à le regarder avec des yeux bienveillants, de savoir que justement, ça fait sens dans ton histoire. Puis je pense que c'est ça aussi que souvent, ben, j'imagine que toi aussi, c'est ça que tu faisais quand tu travaillais en branding, puis ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme comment on apprend à valoriser notre histoire. Puis tu sais, on parle beaucoup de storytelling, on parle beaucoup de plus de tactiques de marketing, mais au bout du compte, c'est vraiment ça. C'est comme la valorisation de notre histoire, puis d'apprendre à le dire. Puis je pense que c'est là aussi que les gens y ont un peu de difficulté, parce qu'il y a cette mentalité-là qu'on serait en train de se vanter, ou que les choses sont pas... Tu sais, parce qu'on n'est pas, le top du top qui a eu comme la meilleure école, le meilleur revenu, les meilleurs...
je ne sais quoi, les meilleurs cheveux. Quoi,
ouais, c'est ça. Ben que là, on mérite pas de se donner un titre ou de se donner une valeur ou d'aider les autres, parce qu'on n'est pas à ce niveau extrême supérieur.